Bonjour et bienvenue, 14h TU, 15h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, sidération et deuil en Allemagne, à quelques jours des fêtes de fin d'année, un marché de Noël a été attaqué par un homme au volant d'une voiture, faisant 5 morts et 200 blessés. Le chancelier Scholz s'est rendu sur les lieux du drame, vous l'entendrez dans un instant. Une semaine après le passage du cyclone Chido, Mayotte attend avec impatience l'aide promise. Emmanuel Macron a promis le raccordement dès aujourd'hui des foyers à l'eau, au moins de façon partielle. Autre raccordement, cette fois électrique. Le réacteur nucléaire le plus puissant de France alimente maintenant le réseau électrique, c'est l'EPR de Flamanville, enfin opérationnel après 17 ans de chantier. 5 morts et 200 blessés, certains grièvement. Donc, dernier bilan de l'attaque à la voiture d'hier soir sur le marché de Noël de Magdebourg, ville allemande située à 160 km de la capitale Berlin. Parmi les derniers développements, une déclaration de la ministre allemande de l'Intérieur. L'auteur présumé, un médecin d'origine saoudienne de 50 ans et selon elle, islamophobe. Cette ministre, Nancy Faeser, s'est rendue sur les lieux du drame ce matin aux côtés du chancelier Olaf Scholz. Celui-ci a promis d'agir contre ceux qui veulent le sommet et la haine, on l'écoute.
Il est important, lorsqu'un événement aussi terrible se produit avec autant de blessés et de morts, que nous restions soudés, que la haine ne s'impose pas, mais que notre communauté reste animée par la recherche d'un avenir commun. Ceux qui répandent la haine n'ont droit à aucun pardon. L'auteur de cette attaque doit être poursuivi avec toute la rigueur prévue dans notre arsenal juridique. Il en va de notre avenir.
Le chancelier allemand Olaf Scholz, tout à l'heure à Magdebourg, à l'approche des législatives du mois de février en Allemagne. L'extrême droite s'est saisie de l'attaque d'hier soir pour dénoncer l'accueil des étrangers et des réfugiés dans le pays. À Mayotte, une semaine après le passage d'un cyclone dévastateur, les habitants attendent encore d'être aidés. Les Maoris s'impatientent devant l'arrivée au compte-gouttes de l'aide. En visite sur place cette semaine, Emmanuel Macron a constaté l'immensité des besoins. Il a promis le raccordement des foyers à l'eau dès aujourd'hui, au moins de façon partielle. Mais il a prévenu que pendant des mois, Mayotte ne vivrait pas de façon normale. Le nouveau pouvoir syrien assure vouloir contribuer à la paix régionale et construire des partenariats privilégiés. Mais la coalition qu'il a formée avec d'autres forces syriennes semble fragile. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans la Ghouta. Ce bastion de la rébellion en périphérie de Damas a connu des années de bombardements et de combats. Les groupes rebelles armés issus de la population locale ont repris le contrôle du secteur dans une union fragile avec Tahrir el-Sham. Reportage à Douma, Dorian Verdier et Julien Boileau.
Bilal avait 18 ans en 2011 quand la révolution a commencé. À la mort de son meilleur ami, tué par le régime, il a rejoint le groupe armé Jaïch al-Islam. Après des années de combats et de bombardements dans la Ghouta, Bilal s'est finalement réfugié avec sa famille dans le nord du pays. Lorsqu'il a entendu parler de l'offensive vers Alep, il a repris les armes.
Nous avons passé un accord avec les HTS. Avant le lancement de cette offensive, Ayat Tahrir al-Sham interdisait tout groupe armé qui n'était pas sous son contrôle. Pour libérer Damas, nous avons mis nos désaccords de côté. Mais ici, nous sommes tous de la Ghouta. Nous sommes entrés dans Damas sous le nom des rebelles de Damas.
Aujourd'hui, l'autorité de transition semble n'être tenue que par Ayat Tahrir al-Sham. Face à cette constatation, Bilal préfère laisser la parole à son aîné Ali.
C'est vrai, personne ne peut le nier, mais nous sommes fatigués après 13 ans de guerre. Alors on s'en remet à Dieu, mais nous pensons que le nouveau pays et son autorité devraient appartenir à tout le monde, druzes, chrétiens, musulmans, à tous les citoyens.
Hors micro, Ali nous affirme que Ayat Tahrir al-Sham ne représente en réalité que 20% des hommes qui ont libéré la Syrie et refuse d'être assimilé à un groupe considéré comme terroriste par la communauté internationale. Julien Boileau, Oriane Verdier, Douma, RFI.
Direction maintenant la Corée du Sud, où les manifestations se poursuivent pour demander la destitution définitive du président. L'Assemblée nationale l'a suspendu de ses fonctions samedi dernier. Maintenant, c'est au tour de la Cour constitutionnelle de trancher. Depuis la tentative ratée du président d'instaurer la loi martiale début décembre, la société civile se mobilise massivement en Corée, où nous retrouvons Camille Ruiz.
Sandwich, boulettes de riz, café chaud, tous ces encas sont offerts par des anonymes près des lieux de rassemblement. Le Parlement, mais aussi Gwanghwamun, la grande place de Séoul. Objectif, apporter du soutien aux manifestants qui exigent la destitution définitive du président Yoon Suk-yeol. Min-so a bénéficié de ses cadeaux prépayés. L'étudiante se réchauffe autour d'un thé vert brûlant.
Je suis très touchée, très reconnaissante des Sud-Coréens qui vivent à l'étranger ou qui ne peuvent pas venir pour des raisons qui les regardent, nous offrent des boissons chaudes et de la nourriture. C'est leur manière de nous montrer leur soutien.
Il suffit aux manifestants de se rendre dans certaines boutiques et de donner un code. Ceux-ci sont partagés via les réseaux sociaux. Certains magasins les affichent au-dessus de leur comptoir. Sur Internet, une carte participative a même été créée, toujours de manière anonyme. Dessus, toutes les indications nécessaires pour profiter de ces dons, lieux, codes, stock des produits prépayés. On peut y lire par exemple le nom d'un café, associé du nombre de 100 américanos disponibles et du mot de passe « démocratie ». La carte en question ne représente pas que la capitale, mais tout le pays, car des actions similaires sont menées dans d'autres grandes villes, à Gwangju, Busan et même sur l'île de Jeju, au sud du pays. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Pile 15h06 ici à Paris, un sommet dans une station de ski de Laponie pour parler immigration. Quatre dirigeants européens se retrouvent aujourd'hui de façon informelle en Finlande. Les chefs de gouvernement finlandais, grecs, suédois et italiens. La présence de la première ministre italienne Giorgia Meloni est loin d'être anecdotique. Elle cherche à peser davantage sur la scène européenne, notamment pour faire avancer ses idées sur la question migratoire. Nicolas Rocca a recueilli l'éclairage d'une spécialiste, Virginie Guiraudon, spécialiste des politiques européennes d'immigration.
Le Conseil des ministres, qui est vraiment très important au niveau européen, puisque c'est lui qui décide les lois avec le Parlement européen, peut constituer des majorités sur certaines questions. Donc l'idée pour, par exemple, Giorgia Meloni, d'avoir de nouveaux alliés dans des pays qui ont basculé relativement récemment, hein, avec des partis de droite radicales, puissent se rallier à ces politiques, puissent être un soutien, est forcément un avantage pour elle. Donc c'est plutôt d'étendre une coalition qui va soutenir ces politiques d'externalisation qui, pour le moment, ne sont pas validées au niveau de la Commission européenne ou complètement, puisque là, il ne s'agit pas de coopérer avec des États tiers, simplement, par exemple, pour les engager à éviter les départs, mais vraiment d'avoir ces centres de traitement, on va dire, et de tri des migrants entre demandeurs d'asile potentiels et personnes qu'on va essayer de renvoyer chez eux ou dans des États tiers.
L'attentat de Lockerbie, c'était il y a 36 ans. Une bombe explosée à bord du vol Panam 103 entre Londres et New York, au-dessus du village écossais de Lockerbie. 270 morts dans ce qui demeure l'acte terroriste le plus meurtrier de l'histoire britannique. La Libye de Muammar Kadhafi avait fini par endosser la responsabilité. 36 ans après, le père d'une victime continue d'espérer des réponses. Emeline Vin nous appelle de Londres.
36 ans après le décès de sa fille Flora, Jim Sawyer réclame la déclassification de tous les documents liés à l'attentat de Lockerbie. Beaucoup d'informations n'ont pas été rendues publiques et le gouvernement n'a plus aucune raison de les garder secrètes, estime le médecin à la retraite qui a toujours agi en porte-parole des familles des 270 victimes du vol Panam 103. Bien qu'un officier du renseignement libyen ait été condamné pour l'attentat et que l'ancien président Muammar Kadhafi a accepté la responsabilité de son pays, Jim Sawyer reste persuadé que c'est une faction syrienne du Front populaire de libération de la Palestine qui a commandité l'attentat. Les gouvernements britanniques successifs ont toujours refusé de lancer une enquête publique. En 2020, même le ministre de la Justice estimait impossible la déclassification au nom de la sécurité nationale et de la préservation de la diplomatie britannique. Au-delà de ce 36e anniversaire, Jim Sawyer compte surtout sur la diffusion début janvier d'une série inspirée de son combat à la télévision britannique pour rallier le soutien du grand public à sa cause et contraindre les autorités à lever le secret sur les archives. Emeline Van Londres, RFI.
Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville, dans le nord-ouest de la France, est maintenant opérationnel après 17 ans de chantier, 12 ans de retard. Le groupe EDF annonce qu'il a été raccordé ce matin au réseau électrique national. Le réacteur atteindra jusqu'à l'été prochain différents paliers de puissance qui solderont la phase d'essai. EDF salue un événement historique pour toute la filière nucléaire française. Emmanuel Macron parle quant à lui d'un grand moment qui renforce la compétitivité de la France et protège le climat. Enfin, au procès de l'assassinat de Samuel Paty, la Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict hier soir. Elle a reconnu coupable et condamné les 8 personnes impliquées dans l'assassinat de l'enseignant. Bientôt 15h10 ici à Paris. Très bonne journée.